finalement, quand on lit un peu la presse, qu'on écoute la radio le matin, où qu'on soit en Europe, on entend des histoires terribles, des histoires de migrants morts. Dernièrement, pour ne pas dire hier, c'était au large de la Tunisie, avec un bilan autour de 155 personnes qui sont mortes au large de Sfax, des migrants qui partaient, qui quittaient l'Afrique pour essayer de rejoindre l'Europe. Et puis la semaine d'avant, il y avait eu encore quelques corps qui étaient remontés au large sur les plages de l'Espagne. Et en fait, ces morts aux frontières de l'Europe, ces morts en Méditerranée, ça fait des années qu'il y en a, ça fait des années qu'on en parle. Et là, ce soir, comme archive du jour, on va proposer une nouvelle diffusion d'un entretien qu'on avait réalisé avec la sociologue Carolina Kobelinski, qui travaille justement sur ce sujet et qui avait coordonné avec Stéphane Lecourant un ouvrage qui a été publié l'an dernier qui s'appelle « La mort aux frontières de l'Europe, retrouver, identifier, commémorer ». C'est un livre qui a été publié aux éditions du Passager clandestin et c'est un livre qui est collectif, un collectif en particulier de chercheurs. Et donc justement, pour commencer cet entretien, Carolina Kobelinski, qui est donc sociologue, nous parle du collectif Babel, qui est un collectif de recherche de l'EHESS.
Dans notre pool de chercheurs, il y a Paula Diaz, Filippo Furri, Maël Galisson, Christine Moliner, Anaïk Pion et Sarah Prestiani. Donc il y a un bon mélange entre chercheurs, militants associatifs, artistes. Et nous avons, avec Stéphane Lecourant, coordonné l'ouvrage. Mais nous avons tous travaillé ensemble dans la totalité des pages.
Et donc là, vous vous êtes intéressé dans cet ouvrage donc aux exilés qui meurent aux frontières de l'Europe en cherchant à atteindre l'Europe. Quel était le projet de l'ouvrage ?
Alors notre idée était de partir du constat. Il y a des morts, il y a des migrants qui meurent aux frontières. On en parle de temps en temps dans les médias, surtout quand il y a des naufrages qui font beaucoup de victimes et beaucoup
de disparus. Et des enfants.
Mais notre idée, c'était d'aller au-delà de ces nouvelles que l'on lit de temps en temps et de se poser la question de ce qui se passe lorsque des corps sont retrouvés et d'interroger ce que nous disent ces corps sur ce que sont les frontières aujourd'hui. Donc, d'une part, l'idée était de partir donc de ce constat, il y a des corps qu'on retrouve, et de poser des questions très simples, qui sont celles qui ont à voir avec ce qu'on fait des corps. Qu'est-ce qui se passe? Qui s'en occupe? Qui les prend en charge? Est-ce qu'on peut les identifier? On peut pas les identifier? On les enterre? On les enterre pas? On les rapatrie? On ne les rapatrie pas? Tout simplement, tout bêtement, qu'est-ce qu'on en fait? Et d'autre part, l'idée, c'était de, à travers la question des morts, donc, qui cristallise toute la violence des frontières, donc de poser très clairement le fait que les frontières tuent et que ces morts dont on lit de temps en temps des articles dans les journaux ne sont pas des faits divers, mais sont des effets de la frontière, nous invite à repenser et à essayer de penser autrement la frontière européenne, les frontières européennes.
Parce que ce que vous racontez aussi dans l'ouvrage, c'est que ce qui paraît un petit peu évident souvent aujourd'hui dans le discours, c'est enfin l'évidence d'une frontière qui existe. C'est quelque chose qui a été construit.
Tout à fait. Donc, si c'est la frontière qui tue, il faut aller voir l'histoire, une sorte de brève historique des frontières. Et comme par hasard, les premiers morts qu'on retrouve, les premiers corps qu'on retrouve, sans doute on en a retrouvé avant, mais les premiers corps dont on a commencé à parler en termes des morts aux frontières sont ceux de 9 personnes qui ont été retrouvées sur une plage de Tarifa, au sud de l'Espagne, en 1988, on est en plein dans le début des signatures des accords de Schengen, dans la construction européenne. Et à partir de ce moment-là, et sans arrêt, on découvre des corps. Il y a notamment le travail d'un journaliste qui s'appelle Gabriele Del Grande, un journaliste italien indépendant, qui a été le premier qui s'est posé la question des morts aux frontières et qui a voulu les comptabiliser. Et donc c'est lui qui, dans son recensement des morts, pose ces 9 corps retrouvés en 88 comme les premiers morts de la frontière européenne. Et donc c'est assez intéressant de faire cet historique un tout petit peu plus long, que c'est pas de la longue durée, mais un petit peu plus long que ce qu'on a l'habitude de faire, puisque globalement parlant, on peut se dire que les morts commencent, au vu de l'engouement médiatique, avec le naufrage du 3 octobre 2013 au large de Lampedusa. Et pourtant non, c'était bien avant, c'était en 88, et même sans doute un petit peu avant. Et depuis, on n'arrête pas de découvrir un corps, deux corps, parfois beaucoup plus. Parfois, on ne découvre pas de corps, mais il y a un naufrage et donc il y a des centaines de disparus. Et ces disparus, et ils nous disent quelque chose de la frontière, puisque ce sont des personnes qui auraient peut-être pu atteindre l'Europe, arriver en Europe par d'autres voies. Mais l'impossibilité d'obtenir des visas, l'impossibilité de voyager par des moyens légaux, avec tous les guillemets qu'on peut mettre à la question de la légalité, font que les gens courent de plus en plus de risques pour réussir la traversée. Et lorsqu'on court de plus en plus de risques, effectivement, il y a des morts et il y a des disparus.
Et alors, du coup, quand vous faites ces enquêtes, enfin, pour vous intéresser justement à ce qu'on fait des morts, qu'est-ce qu'on observe ? Qu'est-ce qu'on en fait des morts ?
Dans une enquête ethnographique, par exemple, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais une possibilité, par exemple, c'est d'aller dans les villes côtières et d'aller poser des questions à tous ceux qui ont de près ou de loin à voir avec la chaîne d'institutions ou de groupes, de collectifs qui gèrent les morts dans la ville. Puisque un élément important à prendre en compte, c'est qu'il n'existe pas de protocole standardisé des prises en charge des migrants morts aux frontières, c'est-à-dire qu'on les traite comme n'importe quel autre mort. Et on peut dire que parfois on les traite un petit peu moins bien, puisque on sait qu'il s'agit des migrants, on sait que ce ne sont pas des personnes qui appartiennent à la société locale, et donc parfois on ne se mobilise pas énormément pour essayer d'identifier, c'est-à-dire d'associer un nom et une biographie à un corps, et ensuite éventuellement de contacter les familles, par exemple. Mais il est vrai aussi qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui, oui, eux, ils se mobilisent énormément afin de, d'une part, coopérer dans l'identification ou dans le processus d'identification sur lequel je vais revenir tout à l'heure, et qui se mobilisent également afin de rendre hommage de toutes les façons possibles et imaginables à ces morts de la frontière. Donc je disais identification, donc lorsqu'on mène une enquête ethnographique, on va aller voir les légistes par exemple, on va aller voir les pompes funèbres, on va aller voir la police, on va aller voir la justice parce que lorsqu'il y a un mort, il faut ouvrir une enquête judiciaire, on va aller voir les ONG, toutes les associations de soutien aux immigrés, on va aller voir les personnes qui sont de passage et qui ont fait elles-mêmes aussi l'expérience de la traversée des frontières. Donc on va enquêter auprès de toutes ces personnes. Et pour ce qui est de l'identification, je disais, il n'y a pas un protocole standardisé de prise en charge de ces corps. Il n'y a pas de base de données, par exemple, permettant de mettre en lien toutes les personnes qui sont portées disparues au sud, notamment des frontières Schengen, et les personnes dont les corps sont retrouvés aux frontières de l'Europe. Et donc, à chaque fois, l'identification, elle repose. Je parle, par exemple, pour les cas de la frontière hispano-marocaine. L'identification repose la plupart du temps sur des sortes de méthodes très, très bricolées d'informations qu'on va recueillir auprès de gens qui ont fait un bout de chemin avec les personnes qui ont été retrouvées décédés ou qui ont voyagé à peu près à la même époque. On va essayer de retrouver des personnes tout le long de la frontière qui auraient pu de près ou de loin avoir connaissance d'un bateau parti de tel endroit à telle date, par exemple, ou des gens qui ont essayé de sauter les clôtures séparant Melilla de la province marocaine de Nador à un moment donné, une nuit particulière, et dont on n'a plus de nouvelles. Donc c'est vraiment par des moyens tout à fait bricolés et tout petits qu'on essaye d'avoir des informations permettant d'obtenir un nom, une religion, une idée, quelque chose qui permettrait, un peu dans un esprit de paradigme indiciaire, de remonter les traces jusqu'à pouvoir éventuellement associer un corps et un nom.
Et on n'a jamais cherché, personne n'a jamais cherché à justement un petit peu formaliser un protocole d'identification ?
En fait, en ce moment même, on est en train de réfléchir à la possibilité de mettre en place un protocole standardisé qui a, lui, déjà en partie été mis en œuvre à la frontière italienne, à l'origine par une équipe de médecins et d'anthropologues médico-légaux, ou forensic, dans la terminologie consacrée, qui ont commencé à travailler sur les corps des repêchés, des naufragés du 3 octobre 2013, justement, donc au large de Lampedusa, et qui ont essayé de mettre en rapport ce que disaient les corps d'un point de vue ostéobiologique et tout ce qu'on pouvait apprendre sur les personnes qui étaient potentiellement dans ce bateau qui a chaviré. Donc toutes les données qu'on appelle ante mortem sur ces personnes. Et donc après, on essaye de faire, les légistes parlent de faire des matchs, c'est-à-dire des correspondances entre ce que l'on sait des personnes avant et ce que les corps nous disent de ces personnes qui sont décédées. Avec cette méthode qui requiert une énorme volonté, mais surtout qui requiert la nécessité d'obtenir, de recueillir des informations sur les personnes qui sont portées disparues ou les personnes qui sont parties, donc tout un travail en amont du travail scientifique sur les corps, sur les restes, à travers cette méthode, pour ce naufrage de 2013, on a pu identifier plus d'une vingtaine de corps. Et ce même protocole a été mis en place une deuxième fois à la suite d'un naufrage en avril 2015 et sur lequel les légistes continuent de travailler. Après, l'idée serait éventuellement de travailler à l'uniformisation de ce protocole en Italie, tout le long de la frontière italienne, et pourquoi pas tout le long de la frontière européenne.
Là, on parle d'une vingtaine de corps, mais une vingtaine de corps sur combien ?
Je ne me souviens pas sur énormément, je ne me souviens pas le chiffre exact de ce naufrage, mais effectivement...
Est-ce qu'il y a énormément de corps qui sont retrouvés en fait, sur les frontières, on va dire, méditerranéennes de l'Europe ?
Alors, énormément, c'est difficile à évaluer. Qu'est-ce qui est énorme ? Un corps est énorme. Et en même temps, aux frontières espagnoles, lorsque je discutais avec des personnes qui travaillent pour la Croix-Rouge, l'année dernière, ils me disaient, mais vous savez... Tu sais, nous ici, on a de la chance. Tenemos suerte. Parce qu'il y a très peu de morts. Il y a un corps par-ci, un corps par-là. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de chance ? Ce que mon interlocuteur voulait signifier, c'était le fait que, aux frontières espagnoles, on retrouve aujourd'hui beaucoup moins de corps que le nombre des corps retrouvés aux frontières italiennes. Après, combien de corps on retrouve par rapport au nombre de personnes qui meurent ? Bon, effectivement, on peut faire l'hypothèse que le nombre de corps retrouvés est très, très en dessous du nombre des personnes qui meurent aux frontières en tentant d'arriver en Europe. D'ailleurs, le nombre de corps qu'on retrouve est très, très en dessous des personnes, du nombre de personnes qui sont portées disparues. Sachant que le nombre de personnes qui sont portées disparues est lui aussi très en dessous des personnes qui meurent effectivement aux frontières et en deçà des frontières européennes.
Et pour les personnes qui sont portées disparues, du coup, il y a qu'est-ce qui est prévu ?
Alors, pour les personnes qui sont portées disparues, il existe un programme du Comité international de la Croix-Rouge qui s'appelle Rétablissement des liens familiaux ou quelque chose comme ça, qui permet de stocker les données que l'on dispose, dont on dispose, des personnes portées disparues, des photos notamment, toutes sortes de données qui pourraient circuler tous les longs de frontières, par toutes les institutions, tous les bureaux qui, de près ou de loin, ont à voir avec la question des morts de la migration, des morts à la frontière. Et par ce biais-là, et encore une fois, on est dans l'infiniment petit. À chaque fois, c'est une photo qui est vue par quelqu'un ou l'information sur un jeune de telle nationalité qui serait parti de tel endroit à tel moment. Information qui est lue par quelqu'un qui travaille dans le bureau de la Croix-Rouge. Je dis n'importe quoi, mais qui à Tarifa et qui peut éventuellement faire le lien avec quelque chose qu'il a lu, qu'il a vu de ses propres yeux à la frontière espagnole ou dont il a entendu parler à la frontière gréco-turque. Donc c'est vraiment du très très petit. Par ailleurs, ça c'est le côté plutôt institutionnel qui est quand même très bricolé, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par les personnes qui traversent les frontières pour rendre compte de celles et ceux qu'on voit mourir à côté de soi et dont on veut faire circuler la nouvelle, notamment pour qu'elle arrive aux oreilles des proches et de la famille.
Question assez pragmatique. Est-ce qu'il y a des frontières qui sont plus mortelles que les autres ?
Alors, comment les évaluer ? Si on évalue en termes de chiffres, sachant que les chiffres sont encore une énigme, parce qu'il n'existe pas des chiffres officiels, on peut revenir sur ces questions tout à l'heure si vous voulez, mais si on parle des nouvelles, des chiffres, on peut penser que la Méditerranée maintenant est devenue très très mortifère. Mais après, qu'en est-il des personnes qui décèdent pendant la traversée du Sahara, dont on ne sait absolument rien ? D'ailleurs, est-ce qu'on peut les considérer comme des morts aux frontières ? Nous, on fait l'hypothèse que oui, tout à fait. Ce sont des morts de la frontière européenne. Mais il n'existe aucune donnée sur ces morts-là. Tous mes interlocuteurs, en tout cas moi, pour ce qui me concerne, les personnes avec qui j'ai pu discuter, m'ont toutes dit que le désert est bien plus mortifère que la mer. Bon, après, comment l'évaluer ?
Et alors justement, tu disais, il n'y a pas de chiffre officiel ?
Non, il n'existe pas de chiffre officiel des morts aux frontières de l'Europe. Et il nous semble que cette absence de chiffres contribue à invisibiliser ces morts et à invisibiliser le caractère mortifère de la frontière. Et pourtant, il y a énormément de chiffres qui circulent. Je parlais tout à l'heure des chiffres avancés par ce journaliste italien Gabriele Del Grande. Il y a aussi des chiffres qui sont avancés par un collectif ou plutôt un consortium de journalistes indépendants sous le label The Migrant Files. Il y a des chiffres qui sont avancés par le projet Missing Migrant, qui est un projet de l'Université de York avec l'Organisation des migrations internationales. Il y a des chiffres qui sont produits par un autre collectif de chercheurs de l'Université d'Amsterdam. Et chacun compte de façon différente. Parce que quelles sont les sources sur lesquelles on s'appuie pour compter les morts. Certains vont s'appuyer sur des articles de la presse internationale, d'autres sur tout type de presse, d'autres sur les certificats des décès retrouvés dans les villes frontières. Et à chaque fois, le chiffre est différent. Toujours est-il que toutes les personnes travaillant sur la question conviennent que si le chiffre à peu près institué, c'est lui maintenant qui est autour de 40 000 personnes mortes aux frontières, il faudrait doubler ou tripler ce chiffre pour avoir à peu près une idée du nombre de morts de la frontière européenne.
Et alors tout à l'heure, tu as parlé des réseaux sociaux et d'une façon justement qui est une façon de communiquer l'information aux proches. Justement, comment on fait pour commémorer des morts quand on n'a absolument aucune nouvelle, on ne sait pas ce qui s'est passé?
Bon, la première question, c'est qui commémore? Et là, il y a vraiment plein de gens qui commémorent. Et on peut commémorer, dans nos observations, il est apparu qu'on commémore, on rend hommage à des morts que l'on n'a pas connues en vie, notamment. Qu'on commémore des morts que l'on a connues, que l'on n'a pas connues, mais qui ont vécu à peu près la même expérience que nous, donc c'est-à-dire celle de la migration, de la traversée des frontières sans en avoir les autorisations. Il y a des commémorations qui sont organisées par la famille lorsque elle, oui, apprend le décès de la personne chère. Donc il y a tout un éventail énorme des commémorations. Et d'ailleurs, la forme que prennent ces commémorations est aussi, elle, très, très différente, peut varier. Lorsqu'on parle des commémorations, on peut penser à des groupes, des personnes qui se trouvent sur le mont Gourougou, du côté marocain de la frontière, près de Melilla, qui tentent plusieurs fois la traversée, qui pour l'instant ne l'ont pas réussi, mais qui ont appris, qui ont pris connaissance de le décès de quelqu'un, et donc qui vont organiser une cérémonie au bon milieu du Gourougou, de la montagne, avec un prêtre jésuite qui était à l'époque, il y a quelques années, dans les parages, et un imam qui était ami, et on organisait un moment de recueillement pour cette personne disparue. Il y a aussi des formes d'hommage très très petites et individuelles, comme celles que j'ai pu observer dans certains cimetières au sud de l'Espagne, par exemple, mais on voit ça aussi à Lampedusa, en Sicile, des personnes qui vont rendre visite à leurs morts dans le cimetière municipal, par exemple, et qui, en partant ou en arrivant, vont se recueillir un moment dans le patio ou dans le coin où l'on sait qu'il y a les migrants sans nom. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment dans les plaques, par exemple en Espagne, on peut voir le mot inscrit, le mot sur le ciment, inmigrante, ou parfois inconnu, ou migrant inconnu, toute forme de mention comme ça, et qui font que certaines personnes, lorsqu'elles vont au cimetière, s'arrêtent un instant, laissent parfois une fleur, et après continuent leur chemin. C'est vraiment tout petit, mais c'est à nos yeux significatif. En tout cas, pour contrebalancer un peu ce caractère mortifère des frontières.
Alors justement, pour finir, est-ce qu'on peut revenir sur justement le régime de la frontière qui a du coup des acteurs qui, concrètement, font respecter d'une certaine manière, en tout cas essayent d'imposer l'idée qu'il y a une frontière. Et puis, il y a aussi la construction de la figure du passeur.
Oui, effectivement, nous avons voulu... accorder une place certaine, disons, dans notre introduction à la figure du passeur, parce qu'il nous semble que les discours politiques véhiculés par les médias mainstream, pour le dire vite, criminalisent ces personnes qui permettent le passage et qui deviennent les coupables des morts aux frontières. Cette façon de criminaliser, ce qui ne veut pas pour autant dire que nous, on ne pense pas que ces personnes aient une quelconque responsabilité dans la mort des migrants aux frontières. Mais pour nous, l'enjeu n'est pas là. D'ailleurs, il y a différentes formes de passeurs. Et d'autre part, le fait de blâmer le passeur ne fait que invisibiliser, encore une fois, ce que je disais par rapport aux chiffres vaut aussi pour les passeurs, invisibilise le caractère mortifère de la frontière et le caractère mortifère des politiques. La frontière n'est pas une ligne géographique, on ne parle pas de ça. On parle des politiques qui construisent les frontières, donc des politiques en matière d'immigration, de délivrance de visa ou de non-délivrance, des politiques plus plus ou moins explicitées d'assistance ou de non-assistance à personnes en détresse aux maires, une politique qui organise des pushbacks, et donc, pour le dire très concrètement, des bateaux qui se retrouvent, par exemple, sur les eaux grecques vont tout doucement être repoussé vers les eaux turques pour que l'Europe n'ait pas à prendre en charge les personnes qui se trouvent sur ce bateau, par exemple. C'est également ce qui se passe aux barrières de Ceuta et Melilla, où depuis longtemps, on met en place ce qu'on appelle des devoluciones en caliente, et donc pareil, des pushbacks, c'est-à-dire des personnes qui ont réussi à grimper les grillages. Donc, déjà un exploit. Parce qu'il s'agit des clôtures de 6 mètres de haut, plusieurs, ça doit se faire vite. Il y a tout un dispositif qui est très, très difficile à dépasser. Mais quand on l'a dépassé, eh ben, parfois, on se fait prendre par la Guardia Civile, en l'occurrence, et on ouvre les petites portes des clôtures, parce que les clôtures de 6 mètres de hauteur ont des petites portes par lesquelles on peut passer, et on repousse les personnes du côté marocain. Donc, elles sont arrivées en Europe, techniquement, mais de fait, elles sont repoussées du côté africain. Donc, c'est tout ça qu'on a voulu mettre en avant lorsque on parlait de la figure du passeur et lorsque on insiste sur le fait que ces morts dont on entend parler ne sont pas un fait divers. Ces personnes dont on dit qu'elles sont mortes par déshydratation, par noyade, par asphyxie, effectivement, elles sont mortes par déshydratation, par noyade, par asphyxie, mais ce n'est pas des aléas de la nature qui tuent les personnes, ce sont les frontières.